Ça veut dire qu'il voyait sa vie comme très noire. Il aurait préféré ne jamais connaître cette misère. Puis il s'est tourné vers Dieu et il a posé cette question sur la manière dont Dieu agissait envers lui. Pourquoi tu permets ça? Et là, un premier des trois amis va parler pour lui donner, supposément, un encouragement. Donc, nous allons lire aujourd'hui ce premier discours-là de Éliphaz et la réaction de Job. Donc, lisons d'abord Job, chapitre 4. C'est le discours de Éliphaz à Job, la première partie. Job, chapitre 4. Éliphaz de Téman prit la parole et il dit, « Si l'on tente de prononcer une parole, en seras-tu las? Mais qui pourrait retenir ses propos? Voici que tu as donné des leçons à beaucoup, tu as fortifié les mains languissantes, tes propos ont relevé celui qui trébuchait. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu te lasses? Maintenant que cela te touche, tu te troubles? Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas l'intégrité de tes voies? Souviens-toi donc, quel est l'innocent qui a péri? Et où les hommes droits ont-ils disparu? Comme je l'ai vu, ceux qui labourent l'injustice et ceux qui sèment ce qui est pénible en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement du lion, le cri du jeune fauve, les dents des lionceaux se brisent. Le lion périt faute de proie. Et les petits de l'homme se dispersent. Mais une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en aperçut le son léger. Au moment où des pensées inquiètes proviennent des visions de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, la peur et le frémissement m'ont atteint, et tous mes os ont tremblé. Un souffle passait sur ma face, et les poils de mon corps se hérissèrent. Quelqu'un se tenait là. Je ne reconnaissais pas son aspect. Une silhouette était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Un mortel serait-il juste devant Dieu? Un homme serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il découvre des erreurs chez les anges, combien plus chez ceux qui demeurent dans des maisons d'argile, eux dont les fondements sont dans la poussière et qu'on écrase comme une teigne. Du matin au soir, ils sont frappés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et non sans sagesse, non avec sagesse. Bien, vous avez sûrement noté quelques versets qui proclament des vérités. Ce passage-là contient quand même certaines vérités, des vérités générales. Mais finalement, c'est quand même une déclaration d'Éliphaz qui n'est pas bonne. Il donne une explication qui est mauvaise sur la cause du mal de Job. Il se prononce, mais il donne une explication qui est facile. Le texte introduit Éliphaz comme quelqu'un qui vient de Téman. C'est pas très connu cet endroit-là, Téman ou Téman. Mais on comprend dans d'autres passages dans l'Ancien Testament, quelques versets qui font allusion à Téman, que c'est un endroit de sagesse, réputé pour sa sagesse. C'est comme si on disait, Éliphaz a fait un doctorat à Harvard. On lit dans Jérémie 49, c'est l'Éternel qui dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans Téman? Les conseils ont-ils disparu de ses fils? Leur sagesse a-t-elle été corrompue? » Donc, il devait avoir bonne réputation, cet Éliphaz-là. Il parle en premier, probablement parce que les deux autres considèrent qu'il est expérimenté, qu'il est sage, qu'il est de bons conseils. Mais l'explication qu'il donne à Job sur sa souffrance n'est pas empreinte de sagesse. Il y a comme trois parties dans son chapitre. À partir du verset 1, il dit, dans le fond, ce qu'il lui dit à Job, c'est ton problème, c'est que tu as donné de bons conseils à des gens. Tu étais réputé pour être un homme de bons conseils, un homme sage, qui peut conseiller. Mais quand le malheur t'atteint toi, tu te décourages. Tu ne te sers pas la même médecine là, que tu as servi aux autres. Tu n'écoutes pas tes propres conseils. C'est comme si ta sagesse, elle est bonne juste pour les autres. Puis toi, qu'est-ce que tu en fais? Tu te laisses abattre? À partir du verset 7, il lui dit, ton problème, c'est que tu n'utilises pas ton expérience aussi, ce que tu as vu. Tout à coup, tu oublies tout. Tu l'as constaté toi-même que le juste ne périt pas. Le juste va à la guerre, il est protégé. Le juste, s'il arrive une famine, il ne meurt pas de faim. Le juste ne périt pas. L'injuste périt. Il est puni par Dieu. Est-ce que tu as oublié ça? On l'a tous vu, on l'a constaté, tu devrais le savoir. Puis là, il continue au verset 12 en mettant comme un sceau sur sa parole, parce qu'il dit, c'est forcément vrai parce que ça m'a été révélé. C'est un peu étrange, parce que du verset 12, ce qu'il raconte, c'est comme s'il était, il a eu un songe, Eliphaz. Il rêvait, puis un homme de Dieu s'est présenté à lui, un ange, pour venir lui apporter une révélation. Donc, ce qui lui est révélé et qu'il transmet à Job, c'est forcément vrai. C'est ce qu'il prétend. Il dit qu'il a reçu, j'ai reçu une révélation de Dieu en rêve, et voici ce qui m'a été dit, c'est qu'aucun homme n'est sans péché. Si quelqu'un prétend l'être, c'est qu'il s'aveugle. Il est aveugle. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une révélation de Dieu pour savoir ça, que tous sont péchés? Peut-être, mais c'est très simple. En fait, son explication qu'il donne à Job, c'est que si tu souffres, Job, c'est que tu as dû forcément tomber dans le péché. Il va falloir que tu l'avoues. Il va falloir que lorsque tu conseilles aux gens de se repentir, il va falloir que tu te le conseilles à toi-même. Tu as forcément tombé dans le péché pour subir autant de malheurs. C'est impossible de tout perdre sans être en train d'être corrigé, puni sévèrement par Dieu. Dieu qui est souverain, qui est bon, ne pourrait pas permettre que quelqu'un souffre comme tu souffres sans qu'il le mérite. C'est logique. Dans sa théologie, on récolte ce que l'on sème. Mais c'est une explication qui est trop facile, trop simple, simpliste. Dans ce cas-ci, même, elle est carrément fausse dans le cas de Job. Alors, c'est sûr que nous, on voit le récit. On a eu même le récit dans les chapitres 1 et 2, même de ce qui se passait au ciel, ce qu'eux ne savaient pas. Mais on sait que c'est faux. On sait que la souffrance que Job a subie, elle n'est pas méritée, elle est imméritée. Il est mis à l'épreuve, c'est sa fidélité envers le Seigneur qui est mis à l'épreuve. Mais il n'est pas en train d'être corrigé, puni de la part de Dieu. Mais selon Eliphaz, Dieu serait vraiment comme, il respecterait des règles fixes, là. Il serait comme, un peu comme une machine distributrice, là, automatique. Que si tu fais le bien, tu reçois le bonheur. Si tu fais le mal, tu reçois le malheur. Un comportement juste, tu as des bénédictions. Un comportement injuste, tu as des punitions. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu est beaucoup plus... sa sagesse est insondable. Dans son diagnostic qu'il donne du malheur de Job, est faux. Même s'il lui paraît évident, Job a péché gravement, même pour être malheureux à ce point-là. Mais elle est fausse. Nous devons faire attention de ne pas faire comme Eliphaz. On a peut-être des exemples que vous vous souvenez que des gens vous ont fait des reproches alors que vous souffriez, vous ont donné des explications, ont voulu vous encourager puis ça vous a plutôt mis à terre. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de le faire envers les autres? Nous devons nous approcher de la souffrance de quelqu'un avec vraiment une humilité, avec une prudence même. Il n'y a pas deux cas, il y a peut-être même deux personnes qui souffrent d'un même événement, là, presque identiques, mais c'est des situations complètement différentes. Il faut faire attention avec les généralisations, même avec notre expérience. Prenons le temps d'écouter avant de donner une explication et même reconnaissons que souvent, il n'y a pas d'explication. Et la meilleure manière de consoler, c'est d'être là avec la personne plutôt que de chercher à lui expliquer la cause de son mal. Et très souvent, c'est la personne elle-même qui le sait, là. Pourquoi elle souffre? Quelle est la cause de son mal? On peut l'aider à réfléchir, mais fournir une explication comme Eliphaz le fournit à Job, ça n'a pas fait de bien. Et puisque son explication était mauvaise, la solution qu'il va donner, elle est mauvaise aussi. Ça, c'est au chapitre 5, lisons-le ensemble. Job 5, c'est la solution qu'il propose à Job. Crie maintenant. Y a-t-il quelqu'un qui te répondra? Auquel dessein t'adresseras-tu? Car l'irritation tue celui qui est stupide. Et la jalousie fait mourir l'imbécile. J'ai vu le stupide prendre racine, et soudain j'ai eu sa demeure en exécration. Ses fils s'éloignent de la voie du salut. Ils sont condamnés au tribunal et personne qui les délivre. Des affamés dévoreront sa moisson et viendront l'enlever jusque dans les épines. Des hommes assoiffés engloutiront sa fortune. Le malheur ne sort pas de la poussière et la peine ne germe pas du sol. L'homme est né pour la peine, comme les étincelles s'élèvent pour voler. Pour moi, je rechercherai Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes, insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie à la surface de la terre et envoie l'eau à la surface des champs. Il relève ceux qui sont abaissés. Ceux qui sont dans la tristesse parviennent au salut. Il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent leur assurer le succès. Il prend les sages dans leurs propres ruses. Le conseil des hommes astucieux ne fait pas long feu. Eux qui rencontrent les ténèbres en plein jour et tâtonnent en plein midi comme dans la nuit. Mais lui, il sauve le pauvre de l'épée qui sort de leur bouche et de la main du puissant. Alors pour le faible, il y a de l'espérance. Mais l'injustice ferme la bouche. Ainsi donc, heureux l'homme que Dieu reprend. Ne refuse pas la correction du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la blessure et qui la panse. Il écrase et ses mains guérissent. 6 fois, il le délivrera de la détresse et 7 fois, le mal ne l'atteindra pas. Il le libérera de la mort pendant la famine et des coups d'épée pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la disette. Ne crains pas les animaux de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les animaux des champs seront en paix avec toi. Tu reconnaîtras que la paix sera sous ta tente. Tu visiteras ton pâturage, et il ne te manquera rien. Tu reconnaîtras que ta descendance sera nombreuse, et que tes rejetons seront comme l'herbe de la terre. Tu entreras dans ta tombe en pleine vieillesse, comme on élève un tas de gerbes en son temps. Voilà ce que nous avons découvert, c'est ainsi. À toi d'entendre et de le reconnaître. Encore ici, il y a du vrai dans ce que dit Eliphaz. Et même, il y a des paroles qu'on dirait qu'on retrouve dans beaucoup de psaumes, mais qu'on peut dire avec foi. Mais parce que son explication était mauvaise sur la cause du mal de Job, et sa solution est mauvaise aussi. Voici ce qu'il dit dans sa solution. D'abord, au verset 1 à 7, c'est « Arrête de crier à l'injustice, de te plaindre. Comme si tu vivais quelque chose qui était injuste, alors que tu as forcément fait quelque chose de mal. Ce n'est pas logique. Donc, arrête de crier un discours qui est illogique, qui est insensé ou même stupide. Ça ne fait pas de sens. Et même, ce qu'il sous-entend, c'est que si Job continue à se plaindre, ce sera même une rébellion contre Dieu. Il faut qu'il accepte son sort, qu'il arrête de se plaindre. Et à partir du verset 8, il dit « Recherche Dieu ». Il lui rappelle « Dieu est grand, c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui qui fait pleuvoir, c'est lui qui fait pousser. Il fait grâce, il pardonne, il relève ceux qui sont abaissés. Accepte la correction de Dieu. » Il va directement au verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. « Accepte la correction de Dieu, c'est pour ton bien. Repens-toi, tu verras qu'il te délivrera du malheur, il te sauvera, il te bénira. » Ben, ça a l'air bien. Donc, selon lui, si Job est dans le malheur, c'est parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour s'en sortir. La recette est simple, « Repens-toi ». Et Dieu va te relever. Si tu restes dans le malheur comme ça, là, au risque même de mourir, c'est parce que tu refuses de te repentir. Donc, c'est simple, avoue ton péché, repens-toi, et tout va bien aller. Mais il place Job dans une impasse. Job, en écoutant Eliphaz, c'est soit qu'il fait semblant de se repentir en avouant quelconque péché, mais lui, il n'en voit pas dans sa vie, il n'est pas tombé dans le péché. Ou il reste honnête, Puis là, il reste sous le jugement de son ami qui le condamne. Donc, il est mal pris. Et Eliphaz ici, donc, n'est pas un bon conseiller. Peut-être même que la révélation qu'il a reçue la nuit dans son rêve, dans son songe, peut-être ça venait même pas de Dieu. On sait que Satan voulait absolument voir Job tomber. Donc, quel est un meilleur moyen que de l'accuser en plus par ses propres amis? Mais qui sait? Peut-être ça vous est déjà arrivé justement d'être dans la souffrance puis qu'un ami, un membre de la famille, un proche vous donne une solution du genre « Fais ça, là, puis ça va bien aller. Arrête de t'entêter. Écoute-moi, là, fais ça. Le problème va se régler. Tu ne souffriras plus. » Mais vous savez que ça n'a pas rapport à ce qu'il vous dit de faire. Ce n'est pas la cause du problème. Parce que moi, j'ai quelques exemples qui me reviennent en tête. Peut-être que la personne est bien intentionnée, mais ça n'aide pas, et même ça fait mal. Ça fait mal de nous faire dire que c'est de notre faute si on continue de souffrir, finalement. Parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour s'en sortir, c'est de notre faute. On est en deuil, puis le deuil dure un peu trop longtemps, puis on se fait dire, bien là, il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu tournes la page. Donc, ça veut dire que si je suis en deuil, c'est de ma faute. Et ça ajoute à la douleur, en plus. Faisons attention de ne pas faire comme eux. Romains 12, 15 dit, « Pleurez avec ceux qui pleurent. » Il ne dit pas, « Intervenez pour qu'ils arrêtent de pleurer. » Et quand on donne une explication trop facile ou des solutions trop faciles, parfois ça dévoile un manque de compassion. Un manque de compatir à la douleur de l'autre. Pas prendre le temps d'écouter, pas prendre le temps d'écouter longtemps. Ça peut être un manque de compassion et c'est ce que Job a perçu de la part de ses amis. Ici, c'est seulement Eliphaz qui a parlé, mais c'est évident qu'il était le porte-parole des deux autres amis aussi, puis là, Job va répondre, et on voit que c'est ce qu'il a compris, que ses propres amis n'ont pas de compassion pour lui. Donc, lisons la première partie de la réponse de Job, chapitre 6. Job 6, Job répondit, « Oh, s'il était possible de peser ce que m'irrite, si on mettait toutes mes calamités ensemble sur une balance, elles seraient maintenant plus pesantes que le sable de la mer. » Voilà pourquoi mes paroles sont inconsidérées. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Mon esprit en boit le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage va-t-il braire auprès de l'herbe tendre? Le bœuf mange-t-il auprès de son fourrage? Peut-on manger ce qui est fade, sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que je refusait de toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Puisse ma demande s'accomplir et que Dieu réalise mon espoir, qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. J'aurai encore cette consolation et je sauterai de joie malgré ma douleur inexorable, c'est que je n'ai pas renié les paroles du Saint. Quelle est ma force pour que j'attende? Quelle sera ma fin pour que je prolonge ma vie? Ma force est-elle une force de pierre? Ma chair est-elle de bronze? Ne suis-je pas sans secours? Toute ressource n'est-elle pas bannie de loin de moi? Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères m'ont trahi comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Ils ont des eaux troubles à cause de la glace, la neige s'y cache. Au temps de la chaleur, ils tarissent, et au feu du soleil, ils se dessèchent sur place. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Téma en fixent le regard, les fixent du regard, et les convois de Saba y comptent. Ils sont honteux d'avoir eu confiance, ils restent confus quand ils arrivent. C'est ce que vous êtes maintenant. Vous voyez ma terreur et vous avez de la crainte. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, faites en ma faveur des présents de vos biens, faites-moi échapper à la main de l'adversaire ou libérez-moi de la main des violents. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi je me suis égaré. que les discours droits sont persuasifs. Mais que prouvent vos reproches? Pensez-vous faire des reproches à mes propos et lancer au vent les discours d'un désespéré? Vous jetteriez le sort même sur un orphelin et vous donneriez en échange votre ami? Et maintenant, veuillez vous tourner vers moi. Vous mentirai-je en face? Revenez, je vous prie, je vous en prie, ne soyez pas injuste. Revenez, ma justice existe encore. Y a-t-il de l'injustice sur ma langue? Ma bouche ne discerne-t-elle pas les calamités? Donc, ce que Job répond, dans un sens, c'est qu'il dit, vous ne comprenez pas à quel point je souffre. On dirait, vous n'avez pas saisi tout le poids de mes douleurs. Est-ce que vous les avez énumérées? Est-ce que vous les avez mesurées? Vous ne comprenez pas ma souffrance, donc vous ne comprenez pas mes plaintes. C'est pour ça que ça vous semble inconsidéré. Et à partir du verset 8, il dit, au point où j'en suis, je n'ai pas besoin de conseils. La seule chose que je désire, c'est que Dieu me fasse mourir, qu'il m'achève, que je cesse cette souffrance. Je cesse de souffrir comme ça. Mais, quand même, à partir du verset 14, il dit, « Mais quand même, je m'attendais au moins à un peu de bienveillance de la part de mes amis. Même si j'ai perdu espoir, au moins si mes amis pouvaient être compatissants, bienveillants envers moi. » Même, il dit, même si j'avais abandonné le Très-Haut, là, vous êtes mes amis, vous devriez me soutenir, là, vouloir mon bien. C'est comme, il compare ça comme à quelqu'un qui marche dans le désert ou une caravane qui est en train de mourir de soif à cause de la chaleur du désert, là, puis qui voit un torrent, puis ça arrivait à l'époque que les caravanes avec les chameaux ou même les marcheurs pouvaient suivre le lit d'une rivière qui était sec et qui montait à la source en espérant trouver de l'eau. Mais là, ils s'éloignaient de plus en plus. Ils arrivaient à la source, puis elle était sèche. Et ils mouraient, assoiffés. Ils disent, vous, mes amis, vous êtes comme ça. Une amitié où on espère s'accrocher pour avoir du secours, et une amitié qui nous fait mourir, dépérir. C'est grave. Et à partir du verset 24, il dit, si vraiment je suis tombé dans le péché, je suis prêt à l'entendre, mais allez-y, dites-moi ce que j'ai fait. Job est malheureux parce que ses amis le jugent au lieu de l'écouter. Et même, on voit qu'il les supplie d'avoir compassion de lui. Revenez, regardez ma justice. Là. Revenez de mon côté et arrêtez de vous placer comme mes adversaires, mes juges, mes accusateurs. Donc malheureusement, l'intervention d'Éliphaz ajoute au mal de Job. On dirait qu'il est encore plus malheureux. Elle empire la situation. Et c'est ce qu'on voit dans la dernière partie que nous lisons ce matin, chapitre 7. Au lieu de faire du bien, son ami a empiré la situation de Job. Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat et ses jours ceux d'un salarié? Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme le salarié attend sa rémunération, ainsi j'ai pour héritage des mois de douleur. J'ai pour mon compte des nuits de peine. Lorsque je me couche, je dis, quand me lèverai-je? Et lorsque le soir se prolonge, alors je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se décompose. Mes jours sont plus rapides que la fauvette du tisserand. Ils s'évanouissent et plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne m'apercevra plus. Tes yeux me chercheront et je ne serai plus. La nuit s'évanouit, elle s'en va. Ainsi, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison. Son domicile ne le reconnaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai plus ma parole, je parlerai dans la détresse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses une garde autour de moi? Quand je dis « mon lit me consolera, ma couche calmera ma plainte », Alors tu me terrifies par des songes, tu m'épouvantes par des visions. Je souhaiterais l'étranglement, oui, la mort plutôt que ces eaux. Je les méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car mes jours ne sont que vanité. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu le prennes tellement à cœur, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire? Gardien des hommes, pourquoi m'as-tu pris pour cible? Pourquoi suis-je à charge à moi-même? Que n'enlèves-tu mon crime et ne laisses-tu passer ma faute? Car maintenant, je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. Donc, Job s'enfonce dans le désespoir. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui est plus creux dans le désespoir. Verset 1 à 6, il dit qu'il est tellement malheureux qu'il n'a plus d'espérance. Plus d'espoir. Il ne voit pas de lumière au bout du tunnel. Le tunnel s'est effondré sur lui. Il va mourir là. Même à partir du verset 7, il dit qu'il va bientôt mourir et qu'il sera oublié. Sa vie aura été vaine. Aïe, aïe. Et à partir du verset 11, il se tourne vers Dieu, vers son Seigneur. Pourquoi t'acharnes-tu sur mon cas? Pourquoi ne m'accordes-tu pas le moindre répit? Il ne peut même pas se reposer la nuit. Il est assailli par des songes, des rêves, constamment dans l'angoisse, le stress, la douleur physique, et mentale, émotionnelle. Il lui dit, « Je ne comprends pas où j'ai péché. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? » Ça fait penser au psaume 8, hein, cette phrase-là. Psaume 8, verset 5. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? » Dans le psaume 8, David contemplait l'univers, puis il réalisait la grandeur de Dieu. Puis il était étonné de voir comment un Dieu aussi grand peut penser à la situation d'un homme minuscule pour le bénir. Ici, Job a un peu la même réflexion. Comment un Dieu aussi grand, si puissant, si magnifique, peut se soucier de la situation d'un homme pour le faire souffrir? Mais, donc, c'est deux situations différentes, mais c'est le même raisonnement. Comment Dieu peut accorder autant d'importance au sort d'une personne qui est une fourmi sur la terre? Ça rappelle comment Dieu se soucie de la situation des êtres humains. Mais Job, lui, s'enfonce davantage dans le désespoir. Donc, l'intervention d'Éliphaz, malheureusement, ça n'a pas porté fruit. Ça ne l'a pas aidé, au contraire, ça a ajouté à sa douleur. Le manque évident de compassion de ses amis lui a fait sentir, quoi qu'il était incompris, qu'il était seul. Il n'y a plus personne. Sa femme l'a rejeté, ses trois plus proches amis viennent et se tournent contre lui. Il est comme seul au monde. Ce que ça a de bon, c'est que quand tu es seul, tu te tournes devant ton Créateur, c'est à la fois. Et il se tourne vers Dieu pour lui parler. Et notons que même dans son cri de désespoir, il n'a pas perdu la foi. Il reste convaincu que Dieu existe, que Dieu est grand, qu'il est souverain, que Dieu contrôle tout. Il demeure convaincu que Dieu est saint. Il demeure convaincu même de la justice de Dieu. Il se demande pourquoi il subit ça, il ne comprend pas. Mais il demeure convaincu là, de qui est Dieu. Il ne le renie pas. Mais il est vraiment déprimé. C'est un fait intéressant, par contre, qu'il ne mentionne jamais qu'il va mettre fin à ses jours lui-même. Ça montre encore sa foi aussi, qu'il reste soumis à la volonté de Dieu. Il ne demanderait pas l'aide à mourir, par exemple. Il garde sa vie entre les mains de son Dieu, mais il demande à Dieu de venir le chercher, de l'achever, de mettre fin à ses souffrances. Mais on va conclure là-dessus que, remarquons que Éliphaz a donné à Job un encouragement qui a beaucoup de passages bibliques ou de vérités bibliques, mais qui finalement décourage. C'est vraiment pas un exemple à suivre. C'est une bonne leçon pour nous. Ne faisons pas comme lui en donnant des explications faciles à la souffrance des gens ou des solutions faciles, des conseils qui sont dépourvus de compassion, d'écoute. J'ai l'impression que c'est un C'est un phénomène qui a explosé avec l'avenue des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament conseillers. C'est facile de donner un conseil sur TikTok ou de faire un reproche à quelqu'un sur peu importe le réseau social. On est derrière un écran en plus, il y a moins de contact, mais on peut faire beaucoup de mal en expliquant pourquoi telle personne vit telle ou telle chose. Parfois, on la connaît même pas. On va se permettre de donner une explication, on va se permettre de donner une solution même. Faisons très attention aux dommages qu'on peut causer. En fait, ce qui mesure la qualité de notre intervention, c'est vraiment l'amour. Et même si on dit peut-être des choses qui sont vraies, des vérités, la vérité sans amour, ça vaut rien. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de parler avec amour. Parfois, c'est nous qui sommes victimes de ces mauvais encouragements-là. Ça peut arriver qu'on se sente seul, totalement incompris. Mais en tant que chrétien, on vit à l'époque après Jésus-Christ. On vit à l'époque de la Nouvelle Alliance. Et on connaît la fin de l'histoire, même si elle n'est pas encore toute arrivée. En tant que chrétien, on peut se souvenir que ce n'est pas vrai qu'on est seul au monde. Même quand on sent qu'on est incompris, rejeté de tous, quand on est croyant, un enfant de Dieu, on n'est jamais seul. Même quand on a ce sentiment-là, on peut se le rappeler. Ça peut être une bonne chose à rappeler aussi à nos frères qui souffrent. Jésus est toujours là pour nous comprendre. Jésus est toujours plein de compassion. Même lorsque nos proches, nos amis en manquent, Jésus en a toujours. Et il a prouvé sa compassion par le geste qu'on a célébré ce matin dans la table du Seigneur, par son sacrifice. Il est mort sur la croix, pas simplement pour remplir une transaction commerciale, là, pour payer les péchés. Il est mort pour nous, par compassion pour nous. C'est son amour pour nous, sa compassion de voir nos souffrances qui nous éloignaient de Dieu, qu'il l'a poussé à faire ça volontairement. Il a plu même au Père que son Fils soit souffrant comme ça pour nous. C'est étonnant quand on lit ce que Eliphaz a dit au chapitre 4 dans Job. Il dit, « Souviens-toi donc, quel est l'innocent qui a péri? » C'était vrai jusqu'à la venue de Jésus que jamais un innocent avait péri. Tous ont péché. Tous les hommes vont mourir un jour et nous vivons dans un monde corrompu. Mais il y a vraiment un innocent qui a péri. C'est Jésus. Donc, Dieu a permis cette injustice-là. Eliphaz, il ne pourrait pas y croire selon sa théologie. Mais Dieu a permis ça pour finalement produire le bien. Jésus était le seul pur innocent, même plus juste que Job. Vraiment parfait, immaculé. Et il a péri sous la main de Dieu qui l'a fait souffrir pour nous, à notre place. Et il est mort incompris de tous, on l'a chanté ce matin, rejeté. Des hommes foulés sous nos pieds, seuls. Même le Père, son Père Céleste, a tourné la face. Vraiment seul, abandonné de tous. Mais c'est arrivé par la volonté de Dieu, par compassion pour nous, pour nous approcher de Lui, être consolés dans Ses bras. Si vous n'avez jamais fait cette expérience-là d'être consolé par Dieu, mais allez à Dieu. Allez à Lui, il va vous accueillir tel que vous êtes. S'il y en a un qui connaît vraiment votre situation, à qui vous pouvez lui parler sans gêne, sans honte, c'est Dieu. Et c'est Jésus qui nous dit, il faut le croire sur parole. Nous devons croire en Jésus, de tout ce qu'il nous raconte à propos de Dieu. Demandez pardon au Père Céleste et il va vous pardonner. Il va vous déclarer juste, il va vous déclarer innocent. Il va vous procurer une vraie consolation, une consolation durable et qui se trouve seulement auprès de Jésus. Toutes les autres consolations qu'on peut espérer avoir sur la terre par toutes les stratégies qui nous sont données, c'est très éphémère, ce n'est pas réel. La paix que Jésus nous donne, là, c'est une consolation qui est profonde et qui dure. Et nous qui connaissons la consolation de Dieu en Jésus, soyons à notre tour des gens qui apportent cette consolation-là. Dieu nous a fait grâce, faisons grâce. Dieu nous écoute, il est compatissant, écoutons et soyons pleins de compassion. 2 Corinthiens 1, 3, 4 dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant, le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Amen.